Nous sommes Acadie. Nous sommes Oui 98.5 FM.
Bonjour André-Carl Vachon.
Oui, bonjour.
Vous êtes auteur conférencier sur l'histoire acadienne. Donc, dans votre parcours universitaire, vous alliez à la fois la pédagogie, la théologie et l'histoire. Mais votre grand rendez-vous d'études, c'est surtout l'Acadie. On pourrait même parler d'un amour pour l'Acadie. L'histoire des Acadiens, c'est un chantier que vous avez commencé en 1993. Alors, c'est un chantier qui est jalonné d'ouvrages comme les déportations des Acadiens et de leur arrivée au Québec, que vous avez publié en 2014, les Acadiens qui ont accepté l'offre de Meuret, publié en 2016, la petite Cadie, ensuite, où vous avez fait un détour par la Martinique, et vous avez également publié dans le registre jeunesse avec Raconte-moi la déportation des Acadiens en 2019. Pour tous ces livres, vous avez eu un certain nombre de distinctions impressionnantes. Vous êtes un petit peu l'expert en ce qui concerne l'histoire acadienne, l'expert à qui il faut parler actuellement si on ne connaît pas trop l'Acadie. Et vous revenez aujourd'hui avec la publication de votre mémoire d'études qui s'intitule « Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-France de 1755 à 1763 ». Bonjour André-Carl Vachon, est-ce que j'ai tout dit ?
Bonjour, presque.
Alors, qu'est-ce que j'ai oublié?
Parce qu'il y a aussi, il y a aussi en 2018 et 2019 est paru un bel ouvrage là, qui est dans une collection, dans le fond, là, Histoire des Acadiens. Alors, de la Fondation Déportation, tome 1 et 2.
Oui.
Illustré en couleur, format. Il est plus carré parce que dans les marges, il y a des points de vue, passe à l'action. Il y a vraiment, c'est interactif, là. Alors, on voulait aller aussi chercher un monde un peu plus jeune, mais aussi les personnes un peu plus âgées se retrouvent très bien puis peuvent faire de l'interaction avec leurs petits-enfants s'ils veulent parler d'histoire de notre chère Acadie.
Et on sait que c'est un sujet qui est vraiment important de parler d'histoire avec ses enfants, ses petits-enfants, puisqu'on se rend compte que l'assimilation qui a eu lieu, alors notamment ici en Nouvelle-Écosse, puisque je vous appelle depuis Halifax, c'est un sujet qui touche énormément les Acadiens ici, et donc tous les supports que vous offrez aux Acadiens à travers notamment ces livres, c'est d'une importance capitale pour parler d'histoire, et donc pour parler surtout de sa propre histoire. Vous, qu'est-ce qui fait que l'Acadie est devenue un petit peu votre sujet d'obsession à travers vos publications?
Oui, c'est vrai que ça a l'air d'une obsession. Merci de le dire. Ben finalement, moi, c'est que je suis aussi d'origine acadienne. La tradition orale était quand même assez forte du côté de ma mère. Et puis, quand j'étais plus jeune, je voulais en apprendre davantage, en savoir plus. Ce que je lisais dans les classiques que tout le monde connaît, comme Beaune Arsenault, notamment, ça me suffisait pas. Je trouvais que c'était bien pour l'époque, là, mais moi, ça répondait pas assez à mes questions. J'avais toujours une vingtaine de questions qui apparaissaient à chaque phrase que je disais en me disant, qu'est-ce qui s'est passé plus que ça? Donc, tu sais, souvent, on voyait, par exemple, ils étaient à Pisiquit en Acadie, puis là, tout d'un coup, ils sont à Falmouth, en Angleterre, ou ils sont rendus à Québec. Oui, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais toujours plein de questions. Bref, donc, la grande quête a commencé à trouver donc toutes mes racines, comprendre le déplacement, justement, de mes ancêtres. Puis, à ce moment-là, j'avais vu que j'avais des ancêtres qui étaient passés par la Martinique, mais j'avais pas réalisé que finalement, c'était mes ancêtres acadiens qui avaient été déportés à New York et ensuite avaient choisi de s'établir en Martinique. Et donc, vraiment, c'est tout un parcours comme ça qui fait en sorte que j'ai la piqûre depuis très longtemps. Je suis tombé dans la potion, on pourrait dire, comme Obélix.
Oui.
Et puis, bien voilà. Alors, j'ai une liste de projets de que je veux donc répondre à toutes ces questions que j'ai depuis que je suis tout petit, que j'ai pas encore trouvé dans le fond.
Et alors là, vous répondez dans ce mémoire à une question qui a dû avoir une importance capitale. Et en tout cas, moi, qui en a une pour moi, c'est pendant la guerre des 7 ans. Et vous rattrapez-moi si je dis des bêtises, mais il se trouve qu'il y aurait des miliciens acadiens en Nouvelle-France. pour protéger la ville de Québec lors du siège par les Britanniques. C'est quelque chose qui paraît un petit peu dingue et ça avait jamais été démontré par le passé.
Ça a souvent été justement le parent pauvre de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas ou presque, et puis je me suis mis au défi en faisant justement ma maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières que je serais capable de possiblement de les identifier ou du moins d'essayer de faire une recension le plus juste possible de cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et donc, je me suis mis à lire toute plein de correspondances entre militaires, entre le clergé, par exemple, aller lire justement les mémoires de ces officiers-là, de ces membres du clergé-là, pour trouver vraiment à chaque endroit où ce qu'il y a un extrait où on parle de ces Acadiens-là. Et puis tout d'un coup, dans le journal de Malartic, celui-ci nous dit clairement et nous fait un décompte de toutes les régiments et des groupes de personnes qui se trouvaient sur les plaines d'Abraham. Et tout d'un coup, on voit Acadiens et 150. Tous les chiffres étaient donc arrondis. Alors, ça finissait tous par zéro, sauf les Autochtones. C'était assez étrange. Là, il y avait un chiffre plus exact. Peut-être par leur habillement qui les ont distingués plus facilement, je sais pas. Bref, donc moi, j'ai dû, pour être capable d'identifier ces Acadiens-là, parce que c'était aussi un souci dans ma démarche, c'était est-ce que je serais capable de les identifier? Alors, j'ai suivi le parcours de chacun des réfugiés à partir de l'année 1755 jusqu'à justement cette année fatidique. Et puis finalement, j'ai été capable, en suivant le parcours des familles, de voir quelles familles étaient restées dans la région de Québec et d'isoler selon le barème qui avait été employé pour faire la sélection des miliciens qui, à ce moment-là, étaient de 15 à 70 ans. Eh bien, je suis arrivé à 156 pile. Alors, sans essayer de forcer la note, là, vraiment, je suis arrivé. Et là, je me suis dit, ben, alors, il nous dit qu'ils étaient environ 150. Moi, j'arrive à 156. Bon, ben, j'ai peut-être un ou deux personnages de trop. Mais bref, c'est assez proche de la réalité, finalement.
Et en fait, votre livre, alors, je l'ai dévoré rapidement. En fait, c'est vraiment de l'histoire à échelle humaine, puisque vous avez suivi chacune des familles déportées vers le Québec. On retrouve des noms tout le temps. On est capable de même s'attacher à certaines dynasties acadiennes, puisqu'on les retrouve au fur et à mesure des pages. Et alors, il y a des passages qui sont aussi très forts, puisque vous incluez beaucoup dans ce mémoire de l'épistolaire, des échanges de lettres entre commandants, entre militaires, avec le clergé, comme vous l'avez dit. Et alors, il y a notamment ce passage, moi, qui m'a un peu glacé le sang, lorsque vous parlez d'un des Acadiens, justement, qui se trouve sur les plaines d'Abraham et qui repart de la bataille, puisqu'on se rend compte dans votre ouvrage que les miliciens ont protégé la retraite de l'armée régulière française, si je ne dis pas de bêtises. Et on découvre le jeune Trahan qui en fait s'était rapproché des bois et il repasse par la boulangerie. Donc c'est un épisode que vous décrivez très bien dans le livre. Et en fait il découvre une scène d'horreur dans cette boulangerie qui servait à nourrir les militaires français, francophones, acadiens, canadiens. Et en fait une des personnes, le tenancier de la boulangerie, a été décapité et sa tête gît sur une pile de miches de pain. Et lui, jeune acadien, découvre ça sur son chemin de retraite. Ce moment, il est vraiment ultra fort, quoi. Et on comprend ce que ça doit être d'être à des centaines de lieues de son lieu d'habitation, de son lieu de vie, d'être déporté, de se retrouver dans une milice, d'avoir lié des sympathies avec des Canadiens, d'être sur ce champ de bataille et là, au moment de la retraite, de tomber sur cette scène. À la lecture et à ces découvertes-là, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous?
Plusieurs choses, parce que évidemment, lire des extraits d'horreur comme ça, et moi j'y étais sur scène, là, je suis allé sur place pour justement m'imprégner d'imaginer cette scène-là, donc 260 ans avant nous quand même. Vraiment, c'est aussi troublant parce que parce qu'il est dans, il était dans la parenté de mes ancêtres, ce Joseph Trahan.
En plus.
Et il a été donc à côté de mes ancêtres qui étaient aussi sur le champ de bataille. Donc, je m'imagine qu'il n'était pas nécessairement seul quand il s'est retiré non plus. Alors, c'est d'imaginer tout ça, puis de dire, mon Dieu, on a vu cette horreur, mais aussi c'est qu'on a fui aussi un horreur. Donc, en Acadie, on a vu nos maisons brûler, on a dû s'enfuir, pas savoir où est la parenté non plus, parce que finalement, il y a des familles qui se sont complètement séparées et perdues dans cette tragédie-là. Si je prends la famille de mon ancêtre, le jeune, bien lui, je parle le père, donc, et sa deuxième épouse, ils ont réussi à se cacher à Little Brother, au Cap-Breton, donc au nord de North Sydney. Lui, il est enterré là avec ses jeunes enfants. Et puis, mais ensuite, il y a de ses enfants qui ont été déportés, qui étaient toujours à Pisiquid, donc qui ont été déportés en Angleterre, qui ensuite ont été rapatriés en France. Certains sont partis ensuite vers la Louisiane, alors que lui, mon Jean-Baptiste le jeune, avec deux de ses sœurs, il s'est envenu se réfugier à Québec. Alors, ils se sont jamais revus, ces gens-là. Là. Alors, puis ensuite de dire bon ben le plus vieux prend ses forces et s'en va sur le champ de bataille, donc c'est quand même assez c'était vraiment une période trouble.
Oui, très
alors,
trouble.
Quand on pense quand c'est ça, parce que souvent quand on regarde cette histoire-là, évidemment on peut pas nécessairement aller chercher tout ce qui s'est passé pour chacune des personnes, mais quand on réussit à aller chercher le véhicule dans certains membres de famille, bien, ça change la perspective sur la grande histoire, dans le sens qu'on sait les grandes lignes, bon, ben, il y a tant de personnes, oui, mais c'est qui ça, ces personnes-là? Et quand on réussit à faire ça, bien, on va chercher beaucoup plus le cœur, justement, des gens de façon générale, et donc, c'est différent, là, je trouve.
Alors, justement, il y a un épisode également qui nous intéresse, spécialement ici à Halifax, puisque même à la fin de la guerre et la capitulation de Québec, il y a 200 Acadiens qui demandent à rentrer, qui obtiennent le droit de rentrer auprès du juge Cramahe, et qui, une fois revenus en Acadie, se font dire que leur autorisation est fausse. Et finalement, ils vont être emprisonnés à Halifax. Qu'est-ce que ça symbolise aussi, cet épisode?
Ah, ça, c'est toute une c'est toute une histoire, parce que finalement, on se rend compte que ben, cette histoire-là que vous contez, c'est qu'il y a ces deux histoires qui étaient finalement qui deux moments historiques différents, c'est-à-dire que on croyait qu'il y avait 200 Acadiens qui étaient partis de Québec avec la permission donc du général pour pouvoir aller s'installer sur les rives, donc les berges du fleuve Saint-Jean, donc au Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Puis finalement, c'était deux réalités. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Là. Les gens ont répété la même erreur. C'est un début dans cet ouvrage-là, de démontrer que c'était deux faits différents. Finalement, c'était juste le missionnaire qui était parti tout seul avec un Acadien qui l'accompagnait et qui a découvert qu'effectivement, il y avait 196 Acadiens de la région qui s'étaient fait emprisonner et dont certains ont été effectivement envoyés dans la prison de l'île George en face d'Halifax. Parce qu'en c'est en 64 qu'on a, si je me trompe pas, qu'on a permis aux Acadiens de s'installer en Nouvelle-Écosse. Mais ce qu'il faut pas se tromper, c'est qu'il était interdit pour ces Acadiens-là de s'installer sur les anciennes terres. Ils pouvaient pas être plus que 8 familles. Là, je pense que c'est même moins que ça. Il faudrait que je revoie. Mais bref, il y avait un minimum de familles qui pouvaient se regrouper ensemble et ils étaient envoyés aux quatre coins vraiment là, de la Nouvelle-Écosse, la seule région où dans le fond il y avait déjà eu une colonie acadienne, c'était dans la région de Yarmouth. Donc vraiment qui s'appelait Pobnico là, donc qui s'appelle Pobnico, pardon. Qui était pas bon coup à ce moment-là. C'est là, et donc beaucoup de ces Mius d'Entremont qui vont retourner sur les terres que leur ancêtre avait obtenues. Mais c'est vraiment la seule région où on a permis à des Acadiens de retourner. Les autres étaient vraiment isolés. Évidemment, il y en a quelques-uns qui se sont installés à Truro, qui était aussi Québécois à l'époque, mais c'était très, très, très mal vu de donner des terres aux Acadiens, leurs anciennes terres. Donc, on les envoyait dans des endroits rocailleux, difficiles, et c'est pour ça que nos agriculteurs sont devenus pêcheurs, parce que c'est vraiment un changement de paradigme à l'époque. Et puis, c'était très, 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 très difficile avant qu'on ait, vous connaissez peut-être l'histoire du père Cigogne, ça a pris du temps avant qu'on ait enfin un curé sur place pour eux. Ça n'a vraiment pas été facile.
Alors, dans la seconde partie du livre, on retrouve également un outil pour tous les amoureux d'histoires très, très personnelles, puisque dans la seconde partie du livre, on a un recueil et un inventaire des familles acadiennes. Est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà été fait, ça?
Pas de cette façon-là. Il y avait déjà deux ouvrages qui avaient recensé de façon assez globale quand même, mais pas de façon spécifique. Alors, il y avait Bonarsenault, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis Adrien Bergeron, qui avait fait une œuvre aussi sur la généalogie acadienne au Québec, s'appelant « Le grand arrangement » pour faire très à l'expression du grand dérangement. Mais moi, je me suis rendu compte, parce qu'évidemment, pour réussir à faire ma base de données, puis à identifier tous ces Acadiens-là, je me suis rendu compte qu'il y avait soit des doublons, qu'il y avait des erreurs, où il manquait aussi certaines familles acadiennes, puisqu'on pensait, bon, évidemment, des fois, c'était pas évident. Il y avait déjà des familles Leblanc au Canada, et il y avait donc les familles Leblanc acadiennes. Et donc, des fois, bon, quand c'est pas spécifique dans le registre, on peut mélanger les familles, évidemment. Donc, il y avait tout ce travail de validation que je devais faire. Et puis ensuite, toujours avec le point de repère, c'est-à-dire le moment du départ de l'Acadie, le moment de l'arrivée, donc du premier acte enregistré où on témoigne qu'ils sont bien sur place. Alors, de cette façon-là, non. D'avoir fait aussi la recension de toutes les mentions, donc d'une arrivée de bateau ou d'un départ, pour être capable justement d'avoir une information le plus précise possible. Évidemment, il y a des éléments hypothétiques là, sur quand on met en lien avec les bateaux. Donc, c'est pour ça que souvent j'écris « possiblement sûr » ou des choses comme ça. Mais ça, non, ce travail-là avait pas... J'avais déjà entamé ce travail-là, mais à ce moment-là, il fallait absolument que je réussisse à faire l'offre de Murray pour être capable de mettre à terme et donc d'arriver à être capable d'identifier ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, mais aussi pour être capable d'isoler ces familles et de trouver, bon, est-ce que... Parce qu'à un moment donné, des Pierre Landry, par exemple, oui. Il y en avait plus qu'un à ce moment-là.
Oui.
Il y avait beaucoup de noms qui se doublaient, qui se triplaient même. Alors, il fallait être capable, justement, de s'assurer que le Pierre Landry, par exemple, qui était à Boston, ben, c'était pas le Pierre Landry qui était à Québec. Donc, être capable de démystifier ces familles-là, c'était tout un défi.
Et c'est un petit peu la mission que vous êtes fixée avec cette étude des Acadiens, de leurs mouvements, de leurs histoires, alors à la fois de leur grande histoire et puis de leurs histoires individuelles. Merci beaucoup André-Carl Vachon pour cet ouvrage et pour cette entrevue. Pour vous, c'est quoi votre Acadie maintenant? Ce sera ma dernière question.
Oh, la question... C'est sûr que moi, je vis au Québec. Donc, c'est sûr que j'ai une Acadie. Mon Acadie, je la suis, l'actualité acadienne en Nouvelle-Écosse. Je suis ce qui se passe en Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, etc. Donc, je suis autant conscient de ce qui se passe aujourd'hui. C'est sûr que j'ai une Acadie de cœur via le passé, par mon attachement donc à mes racines, à mes ancêtres. C'est sûr que quand je vais... par exemple, à Windsor aujourd'hui, qui était là où il y avait une terre de mes ancêtres, ou que je vais à Annapolis Royal dans Belle-Île, sur les terres de mes ancêtres, c'est sûr que il y a un attachement très particulier, j'ai un regard autre, évidemment parce que je connais cette histoire-là, donc c'est sûr que j'ai une Acadie de cœur, et puis j'ai beaucoup d'amis maintenant partout en Acadie, donc Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, comme je disais tout à l'heure, l'Île-du-Prince-Édouard, alors j'ai un attachement qui est très important à cette Acadie-là qui me tient à cœur et qui, j'espère, avec tous les dénouements qu'on a entendus dernièrement, justement, pour la scolarité des francophones, que ça va améliorer la situation pour eux. Puis moi, je souhaite vraiment que l'Acadie poursuive son développement, malgré qu'elle soit minoritaire, par exemple, en Nouvelle-Écosse.
Tout à fait. Merci beaucoup, André-Carl Vachon. Merci pour cette entrevue. Et puis, la prochaine fois que vous republiez un ouvrage, je suis sûr qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à nous l'envoyer et ce sera avec plaisir qu'on pourra de nouveau en discuter sur les ondes de Oui FM, votre radio communautaire à Halifax.
Ben, merci.
Nous sommes Oui 98.5 FM.